De l'évangile du Seigneur Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous nous retrouvons dans ce premier dimanche de Carême. Et nous venons d'entendre la page d'évangile de ce jour. La toute première observation que je voudrais faire, c'est à quel point cette page d'évangile, elle est lapidaire. Si vous preniez le temps de la chronométrer, elle dure même pas une minute. C'est comme une parole flèche qui nous est adressée. Elle est bien dans la manière de Marc, avec son évangile ramassé et avec son rythme soutenu, comme s'il était pressé d'arriver au but, au moment où tout va se jouer, celui vers lequel nous marchons, le moment de la Pâque du Seigneur, sa passion, sa mort et sa résurrection. Vous l'avez remarqué, ces quelques versets du chapitre 1er de l'Évangile selon Marc, les versets 12 à 15, trois petits versets, nous les avons déjà lus. Ce n'est pas si ancien, puisque les semaines qui précèdent, nous avons lu l'entièreté du premier chapitre de Marc, son entrée en matière, le moment où il nous indique à peu près tout ce qui va faire l'essentiel de la mission de Jésus, comme son ADN ou sa feuille de route, comme on dirait aujourd'hui. Pour recueillir ce qui nous est dit, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement simple à faire. C'est de se souvenir à quel point ce dimanche dit de la tentation, il peut être différent selon que l'on lit pour l'année A Matthieu, pour l'année C Saint-Luc ou pour l'année B, comme c'est le cas cette année, Saint-Marc. Matthieu comme Luc, chacun d'ailleurs au chapitre 4 de son évangile, nous raconte ce séjour de Jésus au désert. Mais comme vous vous en souvenez, à la différence de Marc, ils prennent tout leur temps pour nous raconter ce séjour et le détail de ce séjour, comme s'ils voulaient nous amener à explorer ce que peut être la tentation, la psychologie de la tentation, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Tentation de mésuser de la puissance de Dieu en transformant des pierres en pain, le miracle pour le miracle. Tentation de tenter Dieu en sautant du pinacle pour lui forcer la main, pour qu'il envoie des anges sauver l'imprudent qui aurait commis ce geste. Ou bien finalement, tentation d'attribuer au diable, au tentateur, à celui qui parle en biais, tout simplement la seigneurie de Dieu. Et on se souvient que, aussi bien ces évangélistes explorent la psychologie de la tentation, tout ce qu'il peut y avoir derrière, aussi bien aussi ils nous montrent comment Jésus en use avec le tentateur, opposant à chaque parole biaisée du Satan, du diable, de celui qui parle deux fois, de celui qui tient un double langage, lui opposant chaque fois la parole unifiée et unifiante de l'Écriture, jusqu'à finalement le renvoyer. Dans saint Marc, rien de tout cela. On nous signale, presque comme au passant, que Jésus va être tenté. Mais on ne nous dit rigoureusement rien de ce qui s'est réellement passé. L'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Point. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Aussi bien peut-être pouvons-nous simplement nous concentrer sur ce qui nous est dit simplement. Et je vais relever quelques éléments, mais qui sont à fleur de texte. N'importe qui peut relever ça, et pour notre démarche à nous, cela peut compter. On nous dit d'abord, on nous rappelle, que Jésus venait d'être baptisé. C'est le premier geste qu'il pose, et en le posant, il réaffirme la solidarité dans laquelle il entend marcher avec les humains que nous sommes. Ces humains, ils vont vers Saint Jean. Ils confessent leurs péchés. Ils disent leur désir de repentir. Et si Saint Jean n'a pas vraiment le pouvoir d'absoudre, à tout le moins, il a le pouvoir de valider cette démarche de conversion. Il a le pouvoir d'accueillir au nom du Seigneur la contrition de cœurs sincères qui veulent se retourner vers le Seigneur. Il le dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue du repentir, mais un autre baptême vous sera donné, un baptême d'Esprit Saint et de feu. » Et voilà que Jésus va prendre sa place dans le cortège des pécheurs qui vont vers Saint Jean. Alors que lui, il est, et nous le savons bien, il est l'innocent. C'est même là le cœur de son mystère. Il est celui qui non seulement n'a jamais posé de geste de péché, mais il est celui dont la source intérieure était si pure qu'il en devient inconcevable, qu'il ne marche pas strictement, non seulement sur les chemins de la justice, mais encore jusqu'au bout des chemins de l'amour. Et Jésus, recevant le baptême de Jean, s'engage à marcher sur notre chemin d'humanité, à en épouser tous les aléas, les hauts, les bas, les pleins, les déliés, les hauts et les creux. Et donc c'est ce Jésus-là qui s'inscrit vraiment dans notre humanité faillible, pécheresse et mortelle que nous suivons. Survient alors, immédiatement après, et on se souvient qu'au moment du baptême, une voix vient du ciel pour attester que Jésus est le propre Fils de Dieu, celui en qui Dieu se complaît, celui en qui il a mis tout son amour. Juste après ce moment du baptême qui a déjà donné lieu à une manifestation divine et même à une manifestation de l'Esprit, on retrouve le même Esprit qui va pousser Jésus au désert. Voilà quelque chose dont nous pouvons très très bien nous-mêmes tirer profit. Lorsque nous entrons dans une démarche de carême, bien entendu, nous répondons à une invitation de l'Église, nous souscrivons à une invitation inscrite dans le calendrier, et nous partons au désert. Mais profondément, si on regarde les choses de près, nous n'y partons pas seuls. Nous n'y partons pas seuls avec nos remords, ou plutôt notre contrition. Nous y partons, nous aussi, poussés par l'Esprit. Car le principe de notre conversion, c'est sans doute notre bonne volonté, mais c'est aussi notre connivence, celle que nous pouvons décider et favoriser avec quelque chose qui n'est pas nous, celui qui est l'Esprit Saint, dont nous disons dans le credo qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. Dominum et vivificantem. C'est l'Esprit qui va pousser Jésus au désert. Et cet Esprit donateur de vie n'envoie pas Jésus vers sa chute, mais il l'envoie vers ce lieu où l'on fait chemin pour rencontrer Dieu. Le désert dans l'Écriture, ce n'est pas le lieu du rien. C'est ce lieu, sans doute à l'écart, où on peut rencontrer le Seigneur, au milieu d'une nature qui n'est pas nécessairement très très hospitalière, mais justement un espace où il est donné tout espace à la manifestation du Seigneur. Souvenez-vous ce moment, par exemple, où quelqu'un comme Moïse, gardant les troupeaux de son père Jéthro, repère quelque chose et du coup doit s'éloigner du troupeau vers un endroit qui n'est peut-être pas un Éden, mais où se passe quelque chose d'étrange, un buisson qui brûle, mais sans être consumé. Et ce phénomène, tout à fait étrange et qui intrigue tellement Moïse, va être pour lui l'occasion de toute autre chose, la rencontre avec l'Éternel, et même une rencontre si importante qu'il va s'y entendre donner le nom même de Dieu. Et il va recevoir la mission que Dieu avait en vue pour lui. Il va envoyer Moïse vers ses frères. Et lorsque Moïse lui dira, mais quand j'irai vers eux, de la part de qui viendrai-je? Et c'est là que le Seigneur lui dit, tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Aussi bien le désert n'est pas du tout le lieu du rien. Il est le lieu de la rencontre, il est le lieu de la révélation. Et pour nous, il est surtout le lieu de la disponibilité à la rencontre et à la révélation. Et dans ce désert, on ne peut pas faire simplement que y passer. On se souvient de ces moments longs. Moïse qui reste 40 jours sur la montagne, il met un temps fou à descendre, on ne l'attend même plus. Ou bien le peuple qui finalement va faire des ronds dans le désert pendant 40 ans. 40 ans pourquoi ou 40 jours pourquoi ? 40 jours pour s'acclimater à la parole. 40 jours pour recevoir la parole ou 40 ans pour faire droit à la parole après avoir purement et simplement refusé de la recevoir, après avoir mis le Seigneur à l'épreuve, comme on s'en souvient, aux eaux de Massa et de Meriba. Aussi bien, voyez, ce premier jour, ce jour-étape qui ouvre notre carême, il est important. Et on pourrait l'appeler ou bien le dimanche de la tentation, ou bien le dimanche du séjour au désert. Peut-être que je préférerais cette deuxième appellation, partir au désert, et ensuite, on verra bien ce qui s'y passera. On verra bien quelles seront les difficultés. On verra bien qu'est-ce qui remontera à la surface de ceux qui nous travaillent, de ceux qui nous tourmentent, de ceux qui nous interrogent. Mais on verra bien aussi ce qui nous sera donné comme lumière. On verra bien aussi ce qui nous sera donné comme force qui remonte à la surface pour nous mobiliser en vue de la rencontre du Seigneur. Et c'est toujours inséparable, en vue aussi de la rencontre avec nos frères et sœurs. Saint Marc, il faut bien le noter, il est polarisé par la mission de Jésus. Ce qui l'intéresse, et c'est pour ça qu'il prend Jésus en compte si tard au fond, il ne s'intéresse à Jésus que dès lors qu'il se met en chemin pour aller vers ses frères et leur annoncer la parole de Dieu. Nous aussi, nous partons au désert pour faire une expérience, ou refaire une expérience, notre expérience de Dieu, notre expérience de vie communautaire, en vue d'abord de valider, d'affiner cette expérience, éventuellement aussi en vue de la partager avec d'autres. De sorte que nous pouvons suivre Jésus, non seulement du regard, mais nous mettre à sa suite. Lui qui, après que Jean aura été arrêté, après qu'il aura fait son passage au désert, va continuer son chemin, retourner vers la Galilée pour y proclamer l'évangile de Dieu. Et il reprendra le message qui était déjà le message de Jean le Baptiste. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est ce que nous avons entendu pour le mercredi des cendres. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, à moins que nous n'ayons entendu l'autre formule, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Le mercredi des cendres, je disais que le carême est un temps qui nous est donné pour que nous reprenions la mesure de l'amour dont nous sommes aimés. Et partant, que nous reprenions aussi immanquablement la mesure de notre difficulté à recevoir vraiment cet amour, notre difficulté à le recevoir vraiment et à le partager vraiment. Ce séjour du carême, ce temps du désert, il nous est donné pour que nous reprenions la mesure de l'urgence de nous gagner au royaume et de l'urgence aussi d'annoncer ce royaume de justice, de paix et d'amour. Vous irez voir ce que Saint Pierre, apôtre, dit à ceux et celles à qui il l'écrit. Il les remet devant le mystère qui va polariser notre attention pendant tout ce carême. Ce mystère vers lequel nous marchons, le mystère de Pâques, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Cette notion de baptême présente à l'épître de Pierre, présente aussi d'une certaine manière dans le livre de la Genèse quand on parle du déluge, cette notion de baptême, le baptême dont Jésus va être baptisé, le vrai baptême, qui va tellement intriguer ses disciples. Après qu'il aura reçu le baptême de Jean, il va y avoir son vrai baptême à lui. Le moment baptismal où justement il va tout ressaisir dans l'esprit et dans le feu d'amour qu'il habite. Et ce baptême, ce sera très précisément le moment de sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, frères et sœurs, au moment où nous prenons le départ, et déjà quelques jours sont passés, eh bien, demeurons attentifs à contempler le mystère du Seigneur Jésus, c'est-à-dire à le regarder, lui, tel qu'il est, tel qu'il se donne, homme parmi les hommes, mais aussi homme venant de Dieu pour nous proclamer l'amour dont nous sommes aimés, pour proclamer plus encore l'urgence à faire advenir à toute force le royaume des cieux comme royaume de justice et d'amour, comme royaume susceptible d'établir ici-bas toute chose dans la paix, c'est-à-dire toute chose dans leur plénitude, toute chose dans leur intégrité, toute chose dans leur fécondité la plus grande. En terminant, je voudrais simplement vous lire une petite prière, un très court texte, qui est la prière de Saint Éphrem. Pourquoi ? Parce que simplement, elle reprend beaucoup d'éléments de ce que j'ai pu dire, mais surtout, elle accompagne notre chemin en présence du Père et à la suite du Fils, et elle accompagne notre travail de conversion dans l'esprit. Je cite « Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination, de vaines paroles. Accorde-moi, à moi ton serviteur, un esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. »